Chapitre 35. L'hélicoptère qui survolait le QG du groupe d'intervention de la police nationale à Ulriksdal est parti vers le sud 20 secondes après que les enquêteurs ont identifié le lieu du crime. Juna a couru jusqu'aux ascenseurs pour descendre dans le parking, s'est engouffré dans sa voiture et a emprunté le tunnel jusqu'à Friedemsplan. L'hélicoptère a survolé le vaste réseau routier du quartier masqué par les arbres, mais les maisons étant trop proches les unes des autres, il lui a été impossible de se poser. Deux opérateurs ont été largués au sol afin de stopper la circulation autour du grand carrefour de Egerstensvägen et de dégager une surface suffisante pour que l'appareil puisse atterrir pour déposer le reste du groupe. À présent, le souffle du rotor principal balaie la poussière de l'asphalte et arrache les feuilles des buissons alentour. L'ensemble du matériel de protection tombe avec fracas sur le bitume au moment où la corde est remontée pour permettre le décollage. Les huit opérateurs portent tous un casque balistique, un gilet pare-balles en céramique et un fusil automatique. Alors qu'ils courent vers l'objectif, ils sont guidés en direct par le centre de commandement qui coordonne l'opération avec les autres unités engagées. Des barrages routiers sont installés sur toutes les sorties principales de Hägersten. Au moment où Juna quitte l'autoroute après Aspuden, le groupe d'intervention l'informe que la maison est vide, mais que la porte de derrière qui donne sur le parc a été détruite par un tir. Francesca est devant l'église lorsqu'elle entend une voiture sur la route. La panique la gagne à nouveau. Elle glisse la clé dans la serrure, ouvre la porte et entre. Le bruit du moteur se rapproche. Des prospectus sur les offices religieux et des cours de musique sont punaisés sur le tableau d'affichage à l'entrée. Elle pénètre dans la nef. La porte se referme avec un bruit vif, comme si quelqu'un claquait des doigts. L'église est plongée dans une obscurité silencieuse. Le plancher est abîmé dans l'allée centrale, entre les rangées de bancs et jusqu'au fond baptismaux recouverts. Une lumière pâle pénètre par les vitraux hauts et étroits. La peur s'est enkystée en elle pendant sa course. Francesca la porte comme une lourde pierre, qui la rend étrangement lasse et absente. Mais peut-être est-ce tout simplement l'effet de l'adrénaline qui quitte son corps. Elle essaie d'accélérer le pas dans l'allée centrale, en jetant des regards inquiets sur les ombres des feuilles à l'extérieur qui se reflètent sur le mur et sur la croix, si particulière, de l'église de Bethel, ceinte d'une couronne d'épines dorées. La famille de Francesca est baptiste depuis le XVIIIe siècle. Lorsqu'elle dort chez sa sœur, elle vient toujours passer un moment dans cette église. Elle réalise alors que c'était peut-être une mauvaise idée de se cacher ici. Si Johnny l'a espionnée, il connaît ses habitudes. Elle passe devant les fonts baptismaux et entre dans la sacristie. Un téléphone gris clair est posé sur le bureau entre les partitions et les livres de cantiques. Elle entend le vrombissement d'un hélicoptère qui passe au-dessus de l'église. Son cœur s'emballe lorsqu'elle décroche le combiné et le place sur son oreille. Aucune tonalité. Elle appuie plusieurs fois sur les touches, puis vérifie qu'il est bien branché, mais toujours rien. À présent, elle ne sait plus quoi faire. Peut-être devrait-elle simplement s'asseoir sur l'un des bancs inconfortables et prier jusqu'à ce qu'elle se sente suffisamment forte pour sortir et trouver quelqu'un qui appellera la police pour elle. Au moment où elle se retourne en direction de la nef, elle entend une voiture s'arrêter sur l'allée gravillonnée à l'extérieur. Elle regarde la porte et se rend compte que la clé est toujours dans la serrure. Elle court se cacher dans l'obscurité près de la première rangée de bancs. Des moutons de poussière se déplacent sur le plancher de l'allée centrale. Elle s'accroupit au moment où la porte s'ouvre en grinçant. Un sifflement prolongé accompagne les pas qui s'avancent dans l'église. Elle se relève, regarde les fonts baptismaux recouverts et se dit qu'elle aurait dû s'y cacher et laisser l'eau bénite la protéger. Les sirènes des voitures de police approchent. Elle entend un cliquetis, puis le sifflement s'arrête. Trois véhicules de police passent devant l'église, et puis le silence. Un long câble parcourt le sol de l'allée centrale. Quelque chose craque entre les bancs. Elle regarde autour d'elle, mais ne parvient pas à localiser l'origine du bruit. Sa nuque est étrangement raide. « Johnny, c'est toi ?» demande-t-elle en déglutissant avec difficulté. Silence total. Elle longe lentement le mur, essayant de comprendre où il se cache. « S'il te plaît, ne fais rien de stupide !» dit-elle, constatant à quel point sa voix tremble. Elle perçoit un léger frottement dans l'une des rangées de bancs. Son cœur bat si fort que sa poitrine lui fait mal. « Johnny, écoute-moi, je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de penser à toi. J'aurais aimé qu'on continue la thérapie. On avait un très bon contact, tous les deux. » Un bruit métallique retentit depuis les bancs sur sa droite. Elle s'efforce de respirer calmement, tout en avançant vers l'allée centrale. « Je ne sais pas pourquoi tu me suis. » Elle se tourne lentement vers la croix sur le mur, se dit qu'elle pourrait courir jusqu'à la sacristie, s'y enfermer et s'enfuir ensuite par la fenêtre. « Johnny, écoute-moi. Quoi qu'il se soit passé, on va arranger ça. On va arranger ça ensemble. » Elle frémit lorsqu'elle l'entend se lever entre les bancs derrière elle. Des pas prudents s'approchent. « Je vais partir maintenant. Et tu vas me laisser m'en aller. » dit-elle sans bouger. « Mais tu devrais revenir me voir. Je veux t'aider. J'ai juste voulu... » Une forte détonation lui brûle soudain les tympans en même temps qu'elle reçoit un choc violent dans le dos, comme si on lui avait jeté une pierre. Puis, elle a la sensation d'avoir renversé un bol de lait chaud sur ses genoux. Elle baisse la tête et voit le sang jaillir de son ventre et s'écouler le long de ses cuisses. Ses deux jambes fléchissent simultanément. Elle tombe si brusquement qu'elle n'a pas le temps de se rattraper avec ses mains. Son visage heurte le sol, ses lèvres se fendent et ses incisives se brisent. Peut-être perd-elle connaissance pendant quelques secondes. Les bourdonnements dans ses oreilles se transforment en une vague rugissante. Son dos la fait terriblement souffrir. Elle comprend qu'on lui a tiré dessus. Une douille blanche roule dans la poussière sous un banc. Son cœur s'emballe et sa respiration devient beaucoup trop rapide. Francesca ne sent plus ses jambes, mais elle comprend qu'il lui tire les pieds et elle craint qu'il ne la viole. Elle essaie de prier, mais ne trouve pas les mots, juste les derniers, ceux qui se répètent inlassablement. « Maranatha, viens » souffle-t-elle. « Seigneur Jésus, viens !» Elle est allongée par terre et sait qu'elle va bientôt mourir si elle ne reçoit pas d'aide. Des véhicules de secours font retentir leurs sirènes au loin. Soudain, elle sent qu'elle glisse. Elle est traînée par les pieds le long de l'allée centrale. Le plancher prend une teinte rouge à cause de son sang. Elle essaie de s'accrocher à un banc, mais n'y arrive pas. Elle réussit à se retourner sur le dos, voit les voûtes du haut plafond, les poutres inclinées qui se rejoignent au faîte, comme le pont d'un bateau, pense-t-elle. Comme si l'église était un bateau dont la quille pointait vers le ciel.